Get down.
I announce my candidacy for president of the United
States. Don't you someday want to see a woman president of the United States of America?
I believe in you.
Un jour dans le monde. Sur France Inter.
Il est 18h48, comme tous les lundis, on se met dans la roue de la campagne présidentielle américaine. Bonsoir mon jeune Américain Frédéric Carbone.
Bonsoir jeune Français.
En direct de Washington. Ce n'est pas de votre faute Frédéric, et il faut bien l'admettre, la semaine a encore tourné, encore et toujours autour de Donald Trump.
Eh oui, Trump qui fait même ses débuts dans la comédie musicale politique. Vous savez qu'aux États-Unis, tout arrive au moment où on note sur Broadway. Ça s'appelle donc Caucus the Musical et c'est devenu une tradition. Au moment du vote dans l'Iowa, la pièce s'installe à Des Moines, la capitale de cet état du Midwest, avec bien évidemment cette année un nouveau personnage vedette. Ça n'a pas l'élégance de Bowie, mais on va pas se priver du plaisir d'écouter un petit extrait.
Hello, Iowa. This crowd is huge. I can make this country great again.
Yeah, you can.
I am very, very, very wealthy.
Bon, ben voilà, on dirait le vrai. Ouais. On dirait le vrai, je peux rendre à nouveau sa grandeur à ce pays. Je suis très, très riche, c'est pour ça que je suis devenu supérieur à tous les autres. Ce phénomène Trump, il est à la une d'ailleurs à nouveau de tous les magazines en ce début d'année. Avec parmi toutes les explications, cette thèse est développée par Time Magazine. Trump serait le Airbnb ou le Uber de la politique. Celui qui abolit tous les intermédiaires entre le vendeur candidat et le client électeur. Pas besoin de parti, pas besoin de soutien de personnalité, pas besoin de relais locaux. Et c'est pour ça, Nicolas, que plus de 6 mois après le lancement de sa campagne, Trump continue à déjouer toutes les analyses classiques.
Et là, il est parti à l'assaut de Ted Cruz, Frédéric, l'un de ses rivaux chez les Républicains.
Bah oui, le prétendant républicain qui l'inquiète en ce moment, en pointe notamment dans l'Iowa. Le sénateur du Texas est aussi le seul à s'être affiché aux côtés de Donald Trump dans un meeting. À un moment, les deux hommes se sont longtemps épargnés, mais là, opération déstabilisation. Vous allez vite comprendre, il se trouve que Ted Cruz est né d'une mère américaine, mais au Canada. Donc son rival se demande à haute voix si tout cela fait de lui un bon américain et s'il est éligible.
If he ever got the nomination, you know the Democrats.
S'il est le candidat désigné, vous savez que les démocrates vont lancer une procédure judiciaire. Il est né au Canada, et qu'on le veuille ou non, il a vécu là-bas, et il y est né. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure, mais je sais que si les démocrates vont en justice, ça durera des années. Et comment peut-on avoir cette menace qui plane au-dessus du parti et d'un individu ?
Vous voyez, tout est dans l'insinuation. En tout cas, voilà un type d'argument déjà utilisé par Donald Trump pour douter publiquement depuis des années de la nationalité américaine de Barack Obama. Alors Ted Cruz est obligé de répondre plusieurs fois par jour. Il affirme qu'il est un natural born citizen, autrement dit un citoyen américain de naissance, donc il ne voit pas le problème. Le message, la petite musique continue toutefois à passer. Et sur le fond, là aussi, il mène le jeu Trump. Écoutez ce même Cruz sur la question de l'immigration. Voilà quelques années, il se disait pourquoi pas favorable à des régularisations de familles vivant et travaillant aux États-Unis. Bah aujourd'hui, c'est plus du tout le cas.
Nous allons commencer par construire un mur efficace. Ensuite, nous triplerons les effectifs policiers aux frontières et créerons une banque de données biométriques pour les visas. Si je suis élu président, je renforcerai la police et j'appliquerai la Constitution. La loi fédérale dit simplement que si une personne en situation illégale est arrêtée, elle doit être déportée. Je ferai appliquer la loi.
Alors voilà, ce qui est étonnant, Frédéric, c'est que même le débat chez les démocrates se trouve parasité par les déclarations de Trump. Et cette semaine, c'est Bernie Sanders qui en a fait la douloureuse expérience.
Ouais, Bernie Sanders et Hillary Clinton aussi, parce que là, on est sur le deuxième thème que martèle Donald Trump ces jours-ci, les frasques sexuelles de Bill Clinton, comme argument pour empêcher Hillary Clinton de se présenter en championne de la cause des femmes. Alors la consigne chez les démocrates, c'est on ne répond pas, on ne se laisse pas distraire. Sauf que dans une réunion électorale, bien sûr, Sanders s'est interrogé là-dessus par un militant démocrate qui se pose des questions. Et bien sûr, bah Bernie Sanders, il est obligé de donner son avis.
Hillary Clinton n'est pas Bill Clinton. Mais nous savons tous que ce qu'a fait Bill Clinton est totalement scandaleux et inacceptable. Mais je pense que nous devons nous concentrer, contrairement aux républicains, sur les problèmes vitaux auxquels ce pays doit faire face.
Donc Bernie Sanders qui continue à essayer de faire campagne sur l'économie, les inégalités, le poids trop puissant de Wall Street. Faut noter d'ailleurs que ce message continue d'avoir un réel écho dans les enquêtes d'opinion. Hillary Clinton ne domine qu'avec une faible marge dans l'Iowa et Sanders a lui un avantage dans le New Hampshire qui sera la deuxième primaire. Et autre sondage, Nicolas, qui inquiète les démocrates, 20% de leurs électeurs se disent prêts à voter Donald Trump. De quoi mettre à mal cette idée, vous savez, qu'il n'aurait aucune chance face à Hillary Clinton. D'ailleurs, désormais, il la domine dans des sondages qui, il faut bien le dire, sont encore très, très, très loin du vote.
Allez, on termine, Frédéric, comme toutes les semaines, avec l'info inutile.
Inutile, mais tellement significatif d'un certain état d'esprit de cette campagne. Voilà donc le Shoesgate de Marco Rubio.
Le Shoesgate.
Shoesgate ou le Bootgate, comme vous voulez, le scandale de la chaussure. Tout part d'une photo postée par un journaliste sur les réseaux sociaux, des chaussures donc du candidat républicain en campagne. Élégante, noire, avec une petite talonnette. Pas idéal, c'est vrai, pour arpenter les plaines enneigées de l'Iowa et du New Hampshire. Mais a priori, il n'y a pas de quoi en faire grand-chose. Sauf que, débat immédiat sur le prix de cette paire de chaussures. Rubio a dû dire que ça coûtait $150. Bon, c'est cher, mais c'est pas énorme. Et surtout, allusion douteuse, ce tweet, par exemple, de la campagne de Ted Cruz. Le vote Marco Rubio, c'est un vote pour les hommes qui portent des bottines à haut talon. Je fais pas de traduction. Le New York Times tire la leçon. On a déjà vu des talons en campagne électorale. Reagan, Bush et d'autres. Mais c'était plutôt des bottes de cow-boy. Là, il ne s'agit pas d'incarner l'Ouest sauvage, mais le melting pot de la chaussure. Visiblement, le climat n'est pas forcément au mélange en ce moment.
Merci Frédéric Carbone et à lundi prochain.